Docteur Jones, je doute que vous ayez quoi que ce soit susceptible de me convenir.
Oh, quel joli caillou! Et comment on peut se passionner pour des morceaux de cailloux?
Mais ce ne sont pas de simples cailloux!
Quel genre de chantier sommes-nous?
Je suis sûr qu'il peut nous apprendre beaucoup de choses sur l'histoire de l'humanité.
Les pierres qui roulent.
Les pierres qui roulent.
C'est l'heure des pierres qui roulent sur Radio Campus Paris 93.9. Et nous sommes nombreux aujourd'hui en studio pour évoquer la question des bruits, des sons, des chants, des fredonnements de nos ancêtres et comment l'archéologie apporte elle aussi sa contribution à leur découverte et leur connaissance. Léa et Lydia sont avec moi pour m'accompagner aujourd'hui. Bonjour. Bonsoir. Oui, c'est le soir. Et bonjour Henri qui nous accompagne aux manettes et qui est très occupé. Marie, spécialiste du plaisir des oreilles hein, sur Radio Campus Paris, nous vient directement de On va vous chercher des noises pour une jolie chronique. Bonjour Marie, qu'elle a concoctée avec son acolyte du moment, Idir Saïdi. Bonjour à tous les deux.
Bonjour à tous.
Vous allez donc nous emmener écouter un concert préhistorique, si j'ai bien compris.
Tout à fait.
Voilà, j'ai hâte, on verra ce que ça donne. Nous avons la chance d'accueillir Aris Procopiou, qui est professeur d'archéologie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui nous éclairera tout particulièrement sur les sens auditifs des hommes de la proto-histoire. Bonjour Aris Procopiou.
Bonsoir à tous.
Oui. Merci d'être là avec nous. Autres interviews, carnets sonores et du bon son, bien évidemment, ponctueront aujourd'hui l'émission, mais je vous laisse donc les découvrir au fur et à mesure. Il a été dit, dans les années 60, que certaines céramiques pouvaient, grâce à l'action des outils sur leurs panses, agir tels des disques vinyles et révéler les sons issus de leur confection. Richard Woodbridge prétendait ainsi que les matières archéologiques pourraient révéler, si l'on y plaçait les écouteurs adéquats, le bruit du tour du potier, l'ambiance d'une journée à Pompéi ou encore même des discussions entre les artisans lors de leur travail. Canulars ou réelles découvertes, les archéologues sont sceptiques et préfèrent se concentrer sur du concret. L'étude des instruments de musique conservés dans les musées et les partitions musicales gravées sur des stèles pour commencer. Je suis allée poser des questions à Sylvain Perrault, docteur en archéologie de l'université Paris 4 Sorbonne, lui-même spécialiste des sons en Grèce antique. Chanceux, il dispose de ses sources historiques précieuses ainsi que des images représentant des scènes d'utilisation des instruments, ce qui lui permet de nous en jouer quelques bouts, à l'aide d'instruments contemporains bien évidemment. On l'écoute nous en parler et on se retrouve juste après avec nos invités sur Radio Campus Paris.
Par chance, pour le monde grec, on a énormément de sources sur la musique antique. On a tous les types de supports, c'est-à-dire aussi bien les textes, les images et les vestiges d'instruments eux-mêmes. Et si par archéologie on entend, disons, l'étude du matériel, dans ce cas-là, la partie que je vais étudier sera plutôt donc, les vestiges d'instruments de musique. Qui sont l'essentiel donc, du matériel dont je dispose pour cette étude, des instruments de musique ou des instruments sonores en général. Je veux dire par là, tout ce qui est grelot, hochet, fait partie du paysage sonore comme les instruments de musique. Donc sur l'Holos, peut-être pour prendre un exemple assez répandu, on va avoir de nombreux textes qui nous parlent des contextes d'utilisation de l'Holos, mais aussi des textes qui parlent de la facture de l'Holos, tout simplement, qui le décrivent en tant qu'objet. Et puis l'image, on le voit, il est extrêmement représenté, en particulier sur la céramique attique, mais pas seulement, dans la sculpture, sculpture en bronze, sculpture en pierre, etc. Et puis, donc, c'est un instrument pour lequel on a beaucoup de vestiges, donc de matériaux assez différents, parce que l'Holos peut être aussi bien en os, en bois, et il peut être aussi en os, disons, gainé de bronze. Et on a ces trois types de matériaux qui sont représentés dans les trouvailles des fouilles archéologiques.
Une fois ces éléments étudiés, la restitution peut se mettre en place. Ici, un poème funeste retrouvé sur la stèle dite de Sékylos, accompagné d'une partition. Tant que tu vis, brille. Ne t'afflige en rien. La vie compte pour peu de choses, le temps réclame son tribut.
Les partitions en elles-mêmes ne nous donnent jamais l'effectif qui est censé les jouer, mais par recoupement avec d'autres sources, on sait un peu l'effectif attendu pour tel ou tel type de morceau, et en gros, ça peut aller, en termes de nombre d'instrumentistes, de 1 à 80. Par exemple, dans la tragédie grecque, on a un musicien, c'est un joueur d'holos, qui accompagne la pièce, jusqu'à 80, c'est le cas des hymnes de Delphes, par exemple, où là, on connaît l'effectif parce qu'il nous est indiqué par une autre inscription que la partition elle-même, et qui nous dit que cet hymne, enfin ces deux hymnes, très exactement, ont été interprétés par plusieurs instrumentistes, des joueurs d'holos et des joueurs de sitar, et un effectif d'environ 70 chanteurs, ce qui fait à peu près 80-90 musiciens, si on veut. Ici, des extraits de l'hymne d'Apollon gravé au IIe siècle avant Jésus-Christ dans le marbre du trésor des Athéniens à Delphes. Enregistrés en 1996, ils sont joués par l'ensemble acoustique expérimental et scientifique Kérylos, dirigé par Annie Bélis, directrice de recherche au CNRS. Sylvain Perrault nous explique la diversité des instruments qui composaient ces orchestres, l'importance des exercices de répétition, des temps de pause et du rythme pour les Grecs. La panoplie des instruments de musique grecs est assez riche. On peut reprendre les catégories traditionnelles des instruments de musique, donc les cordes, les vents et les percussions. Dans la catégorie des cordes, disons, on a des instruments qu'on va retrouver assez peu dans notre culture occidentale, sinon la harpe. Mais la harpe, qui pour nous est assez importante, qui prend place dans un orchestre, philharmonique notamment, est un instrument plutôt marginal dans la Grèce antique parce que très connoté asiatique et plutôt main des femmes. L'instrument à cordes par excellence des Grecs, c'est la lyre. C'est une carapace de tortue qui sert de caisse de résonance sur laquelle on adapte des montants en cornes et des boyaux, au général de bœuf. Donc c'est l'instrument dont doit pouvoir jouer n'importe quel Athénien, pour prendre les sources qu'on connaît le mieux, dans sa jeunesse et ensuite quand il fréquente les banquets. Et à côté de la lyre, qui est l'instrument, on va dire, du tout venant, il y a la sitar, qui elle est entièrement en bois et qui est un instrument beaucoup plus volumineux, plus gros, donc qui est véritablement l'instrument des professionnels, l'instrument dont jouent notamment les musiciens au concours. Les percussions sont associées à des cultes très particuliers, et par là on va trouver des tambours, qu'on appelle le tympanon en Grèce antique. On trouve des cymbales, comme chez nous, mais plus petites. Et puis ce qu'on appelle les crotales, qui trouveraient un équivalent, on va dire, dans les castagnettes modernes. C'est plutôt du côté des vents qu'on va avoir des instruments qu'on retrouve. La syrinx, donc la flûte de Pan, qui, de manière assez étonnante, hein, se retrouve aussi bien dans l'Antiquité grecque que dans le monde des Andes, en Amérique du Sud, ou en Chine. Et puis on trouve aussi de la trompette, qui s'appelle en grec la salpinx, qui est un peu différente de la trompette moderne, en ce sens qu'elle est faite d'un long tuyau qui se termine par un pavillon, mais l'usage est assez bien connu, donc lié à la guerre, pour les sonneries, un peu comme aujourd'hui. La trompette est souvent associée aux sonneries militaires. Donc le principal instrument à vent dans l'Antiquité grecque, c'est ce qu'on appelle l'holos. Il est fait de deux tuyaux, munis chacun d'une anse double. C'est, si on veut, un descendant lointain, mais pas direct, loin de là, ce sera plutôt la famille du hautbois. L'exercice technique qu'on peut entendre, c'est un exercice qui est tiré en fait d'un traité de musique antique assez tardif qu'on appelle aujourd'hui les Anonymes de Bellermann. Le premier éditeur en est donc Friedrich Bellermann. Ce sont trois traités assez semblables qui présentent toute la théorie musicale selon la longue tradition des traités de musique antique. On a, de manière tout à fait originale, puisqu'aucun autre traité ne le fait, à la fin, quelques exemples musicaux pour illustrer notamment la théorie du rythme. Et donc, à partir d'une mélodie semblable, on a, disons, un thème et des variations de rythme. On a du coup du 3 temps, du 11 temps, pour faire entendre la différence en matière de théorie du rythme. Et ces exercices sont accompagnés d'une mélodie très simple, mais qui est également très belle et qui semble être peut-être un air connu du temps, sur lequel, comme aujourd'hui, on pourrait faire un thème et des variations.
Le rythme, donc, est lié à la musique, mais il peut ne pas être uniquement lié à la musique. Aris Procopio, il est aussi utile pour la gestion du temps et des tâches artisanales, par exemple.
Chaque artisan, afin de réaliser sa tâche, doit avoir un rythme qui guide ses actions, ses gestes. La démarche ethno-archéologique qu'on applique actuellement, à savoir la comparaison entre les artisanats non mécanisés actuels. J'ai personnellement travaillé en Inde auprès des artisans et j'ai pu observer sur le terrain cette importance du rythme.
On se rend compte de ça, ouais, avec les outils, par
Les
exemple.
outils, ils sont guidés, le bruit de l'outil les
Ouais.
guide et leur donne un rythme tout au long de leur travail.
Qui guide l'action technique. Il y a des chants également?
Il y a des chants, maintenant il y a aussi la radio.
Oui.
Donc parfois ils vont fredonner une chanson, mais très souvent aussi dans certaines activités, ils peuvent chanter eux-mêmes des chants qui peuvent être liés à l'activité ou pas. Un autre exemple, c'est la mouture des céréales, par exemple, où les femmes sont en train de moudre le grain et souvent cela monte pour leurs conditions féminines. Et ça, c'est une constante. On va la trouver aussi bien en Inde, en Afrique. Et parfois, elles sont assez coquines aussi. Elles se moquent des mecs. Et c'est cette activité qui va aussi, ce chant qui va rythmer leur travail.
Est-ce que le silence a un rôle particulier aussi dans ce genre de pratique ou bien plus dans la musique en tant que pratique musicale?
Ben, le rythme, c'est ça, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des silences. Et ils sont fondamentaux, le silence est fondamental aussi. Parfois, c'est aussi le rythme hein, respiratoire. On se repose, et par conséquent, il est important ce silence. Ça peut être une concentration, ça peut être un moment donné où on s'arrête, on a besoin de penser, on ne parle plus. Ça peut être un silence juste pour se reposer. Donc, il fait partie de l'action technique
Donc, il n'y
également.
a pas que les bruits, il y a aussi les moments sans bruit.
Didn't know where
that the boy was.
Voilà, on écoutait donc Long John, un chant chanté par Lightning et des prisonniers donc de la prison de d'Arrington State au Texas, qui a été enregistré en 1935, qui fait écho à ce qu'on a dit, même si c'est pas de l'artisanat, c'est une prison, mais ça rythme voilà l'action des prisonniers. Aris Prokopiou, est-ce que vous pouvez un peu nous parler donc de votre travail, et plus spécifiquement, si j'ai bien compris, un travail sur les sens en général, pas que sur le son?
En effet, l'artisan a des connaissances, savoir-faire technique, savoir pour le travail de la pierre par exemple, il connaît comment un matériau se comporte, mais afin d'acquérir ces connaissances, il mobilise tous ses sens. Mm-hmm. Il mobilise lui, il écoute la pierre, il touche une surface lisse, rugueuse, il la regarde, elle est brillante. Donc tous les sens font partie intégrante finalement de l'action technique et ils sont mobilisés de façon en parallèle, ce qu'on dit un peu une synesthésie ou multisensorielle. Donc tous les sens sont mobilisés durant l'action artisanale. Un exemple intéressant, c'est qu'il y a certaines techniques qui sont simples. Par exemple, polir une pierre, vous prenez un polissoir, de l'eau et vous polissez. On peut apprendre la technique assez rapidement. Mm. Par contre, savoir à quel moment on va changer le polissoir, savoir écouter le bruit du polissoir, savoir lire la douceur de la pierre, et bien là, il faut des habiletés, il faut une connaissance. Et là, c'est les bons artisans et ça peut prendre des années.
Puis il y a aussi des manières de vivre un peu différentes. Par exemple, vivre avec des cochons dans une maison implique du bruit, des odeurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de
Donc,
ça?
Je ne sais pas si tout le monde vivait avec un cochon chez lui, mais c'est vrai que dans les agglomérations de l'âge du bronze, on sait que parfois les cochons étaient engraissés dans l'habitat. Et par conséquent, donc quand les archéologues en Crète, à l'âge du bronze, où c'est une civilisation palatiale, très valorisée, considérée comme une société très raffinée, et quand Joseph Shaw, qui était un archéologue, qui a proposé que les cochons côtoyaient les prêtres du palais de Knossos, ben ça choquait aussi bien les archéologues que le grand public. Mais c'était tout simple, ils engraissaient les animaux et les porcs étaient là, donc il y a du bruit, il y a des odeurs, ils sont là, ils font partie intégrante de leur univers.
Et tout ça permet de savoir un peu quel était le paysage sonore de l'époque. Alors, on va y revenir, je sais que cette expression-là vous dérange un petit peu, mais j'ai demandé à Sylvain Perrault de me décrire ce qu'était un paysage sonore et on y revient juste après.
Alors, le paysage sonore, c'est une notion extrêmement complexe qui est née sous la plume de Robert Murray Schafer, donc un compositeur canadien dans les années 70, dont l'objet était de prouver qu'un certain nombre de sons étaient en voie de disparition par la révolution industrielle. Et voulant sauvegarder les sons qu'il estime les plus purs, on va dire ceux de la campagne, il a mis en garde donc sur l'évolution du soundscape. C'est un concept d'abord anglo-saxon qu'on a traduit en français par paysage sonore. Alors, le problème dans le texte de Murray Schafer, c'est qu'il n'y a jamais de définition très précise de paysage sonore, sinon tout ce qu'un individu peut entendre. Nous, avec Alexandre Vincent et Sybille Emery, dans notre programme sur les paysages sonores de l'Antiquité, nous avons voulu donner une définition plus précise. Donc, quelque chose qu'on pourrait formuler ainsi, la représentation qu'un individu ou un groupe d'individus a d'un ensemble d'événements sonores qu'il entend dans un temps et un lieu déterminé. En fait, ce qui nous importe, c'est recontextualiser ces sons, puisque les sons sont le fruit d'une construction sociale. On ne naît pas totalement intégré dans une nature immédiatement. Les sons, on apprend à les reconnaître, on apprend à les identifier, et donc ils sont le produit d'une construction qui nous vient du milieu dans lequel on vit.
Alors, Aris Prokopiou, le paysage sonore.
Le paysage sonore pour un archéologue est un enjeu important. Il est là, on est en train de reconstituer la vie, les activités dans une agglomération. Et souvent, donc, on a une vision, on regarde un plan, maintenant on a la 3D, on commence à mettre un peu de couleur, mais il faut mettre des sons. Et c'est vrai qu'en étudiant les activités, leur distribution au sein d'une agglomération, petit à petit, on commence à avoir une vision de ce paysage sonore à travers les activités. Si on prend un site de l'âge du bronze, à travers l'étude du matériel, donc la mouture, mm-hmm. il y a un graissement, il y a des chants, il y a sûrement des enfants mm-hmm. à côté, parce que souvent c'est une activité domestique, mm-hmm. et les femmes sont accompagnées de leurs enfants, donc ils jouent, ils pleurent, ils demandent, il y a donc tout ce bruit, il y a à côté quelqu'un, peut-être un homme, qui aiguise son couteau. Il y a des marteaux qui rythment l'activité. Et si on... Donc, je ne veux pas détailler toutes les activités, mais on voit là, petit à petit, que ça prend forme. Il y a, et ce sont des agglomérations très bruyantes.
Et vous, vous préférez parler plutôt d'une perception, d'une représentation, plutôt que d'un paysage ?
Si, j'emploie le terme de paysage sonore mmh. aussi, mais je n'ai pas d'objection sur le terme. C'est plutôt que une parfois, ambiance. Une ambiance... Une...
Alors, au-delà peut-être des cris des enfants, il y a aussi donc les bruits des animaux. J'ai demandé à Sylvain Perrault d'évoquer les sons de la nature comme inspiration et comme création.
Les anciens, comme nous tous, avaient un rapport privilégié avec les sons des animaux. Les cris des animaux, c'est finalement ce qui est immédiatement accessible si on parle de paysages sonores nous environnant. Alors aujourd'hui, les bruits de la ville ont tendance à éclipser ceux des animaux. Mais pour un grec de l'Antiquité, évidemment, il entendait beaucoup, peut-être plus que nous, les animaux qui l'entouraient. Et on voit très bien qu'ils sont dans un rapport assez complexe au son des animaux, donc ils les décrivent, ils les évoquent, mais aussi ils essaient de les nommer. Donc on a toute une panoplie lexicale liée aux cris des animaux. Et puis, il y a des phénomènes assez intéressants, une sorte de va-et-vient entre la musique et le son, c'est-à-dire l'intégration des sons des animaux, des cris des animaux, dans un langage musical, par exemple le fait d'intégrer un sifflement de serpent dans une partition, que moi j'ai essayé de montrer dans les hymnes de Delphes, comment la figure du serpent apparaît grâce à la figure de la mélodie qui est utilisée. Et inversement, les Grecs essaient de retrouver leur musique, la musique, dans les sons environnants. Et donc se noue un dialogue assez subtil, je dirais, entre la musique et le paysage. Et finalement, on voit bien que les Grecs, par rapport aux animaux, essaient de se rendre maîtres et possesseurs de la nature, avec l'exemple notamment de la chasse, où ils essaient, mais ce qu'on fait aussi aujourd'hui, hein, de reproduire les sons des animaux par un objet technique, un instrument type appeau, etc., pour attirer l'animal, lui faire croire qu'il y a un autre animal qui est là pour le chasser, pour l'attraper.
On comprend donc tout l'intérêt de ce paysage sonore. Alors, dans la réalité, comment on traduit ces études ? Léa, tu as travaillé, fait un petit travail sur le travail de Mylène Pardouin. Je te laisse présenter.
Exactement. Donc, je voudrais vous parler, moi, du travail de Mylène Pardouin, qui est musicologue au laboratoire Passage 2021 à Lyon, et qui, selon ses propres mots, est tombée amoureuse d'un plan de Paris qu'on appelle le plan de Bretèze-Turgot, du nom de Monsieur Turgot, qui était prévôt des marchands à Paris, et de M. Bretèze, qui s'est occupé de lever ce plan. Ce plan, justement, il est levé en 1739. Mylène Pardouin travaille depuis 2017 à le mettre en son, ce plan. Elle s'est focalisée sur le quartier du Châtelet, qui lui paraît être le quartier qui résume le plus d'ambiance que l'on pouvait rencontrer dans Paris à cette époque-là. Elle a lu énormément d'archives, a consulté beaucoup de spécialistes, comme par exemple Arlette Farge, qui est spécialiste de la vie des rues parisiennes au XVIIIe siècle, mais aussi bien sûr Alain Corbin, ou encore Youri Carbonnier, qui est spécialiste du bâti parisien au XVIIIe siècle. Et puis elle a travaillé avec des spécialistes de la 3D pour proposer une balade sonore dans le quartier du Châtelet. Nous vous proposons d'écouter un petit extrait de cette balade que nous avons, Enora et moi-même, commentée. On est en bas de la rue Saint-Denis, près du Châtelet. Ce sont les clameurs du marché qu'on entend, et les cris des volailles. Là, on passe près de la grande boucherie. On entend les mouches qui s'activent. On passe sous le Châtelet. On débouche sur le pont au change, bordé de hautes maisons.
l'intérieur d'une des maisons, quand on se penche sur une fenêtre qui donne sur la Seine, on entend les mouettes, les tanneurs qui grattent le cuir et les lavandières qui lavent leur linge. Les ateliers sont situés en bord de fleuve. Écoutez, de retour dans la rue, on entend les artisans qui travaillent. Nous avons fait demi-tour. Nous sommes maintenant sur le quai de Gesvres et assistons à un petit accident de la circulation. Là, c'est un cochon qui se fait égorger qu'on entend. Depuis la rue Saint-Denis, on entend des bribes de musique. Aris Procopio, vous avez fait... Peut-être un peu ce même type de travail, si je me souviens bien, à Malia, dans le quartier Mu. Alors, vous n'avez peut-être pas reconstitué tout à la façon des jeux vidéo, mais comment vous avez pu travailler, vous, par rapport à ces ambiances sonores ?
Le point de départ, c'était l'identification des activités. Mm-hmm. J'ai précédemment parlé, on moule le grain, on travaille la pierre, mm-hmm. On identifie... les pièces de stockage, avec les mouches et les serpents. On identifie les aires ouvertes des activités. On sait aussi que les champs ne sont pas très loin. La spécificité de cette période, c'est que les villes, les agglomérations sont entourées des champs, il y a des jardins. Mm-hmm. Donc on a aussi les bruits de la campagne qui ne sont pas très loin. Tous ces éléments nous conduisent petit à petit à reconstituer cette ambiance sonore, ce paysage sonore, et c'est vrai que ça aurait été intéressant qu'on essaye aussi de faire ce type de reconstitution, peut-être dans quelques années, je viendrai avec vous présenter ça.
En tout cas, ici, donc, nous avons Marie et Idir qui ont fait un peu le même type de travail, mais différemment. pas du tout. Je vous laisse en discuter et vous nous prenez avec vous dans votre voyage.
D'accord, merci beaucoup Enora. Donc Idir, lorsque Enora m'a parlé de cette émission des pierres qui roulent sur l'archéologie des sons, la première chose que je me suis demandé, c'était les hommes préhistoriques allaient-ils au concert, à ton avis ?
Eh bien, pourquoi pas ? Enfin, moi j'ai pas d'ancêtre direct à qui poser la question. Bah, tu t'en doutes bien, mais bon...
Ah bon ?
Non mais, écoute, pourquoi pas essayer d'imaginer comment ça pouvait se passer ?
Tu veux dire, en quelque sorte, faire de l'archéologie expérimentale ?
Écoute, Fred, Marie, voilà, oui, c'est ça. Marie, c'est-à-dire rassembler des vestiges archéologiques pour reconstituer à travers l'expérimentation, l'usage et le mode de fabrication des objets et des lieux qu'on étudie.
Ah, d'accord. Bon, alors, et dire, on s'y prend comment ?
Eh bien, Marie, si t'étais une femme préhistorique, où irais-tu écouter un concert ?
Je sais pas, dans une forêt.
Ouais, mais enfin, ça, c'est un peu dangereux quand même, non ?
Alors, moins dangereux, une grotte.
Eh ben voilà, ça, c'est pas bête, une grotte. Une grotte, c'est sombre, c'est silencieux. Un peu comme une salle de concert. Enfin, quand tu rencontres pas un ours, quoi.
Oui, ça, il vaut mieux. D'accord. Ouais. Alors, est-ce que tu sais quelle est l'acoustique d'une grotte ? parce que je sache si j'ai besoin d'apporter un ampli ou pas. Quoi.
Mais t'inquiète, ils ont tout prévu. Un jour, j'ai entendu l'émission là, sur les épaules de Darwin, qui partait à la recherche des traces des musiques de la préhistoire. Elle exposait les travaux du paléontologue Michel Devoy et du musicien chercheur en anthropologie musicale Yegor Resnikov. Ouais, bon d'accord, avec mon accent. Bon, et ben écoute, c'était super intéressant.
D'accord, mais à rapport à mon ampli, ça disait quoi ?
Mais t'inquiète, je te dis, ils ont tout prévu. Et ben, les Cro-Magnons, ils ont laissé des repères rouges aux endroits où placer le public pour avoir la meilleure acoustique et des fresques monumentales où placer les musiciens et les chanteurs. Je te dis, ils ont tout prévu.
C'est vraiment super. Parce que brancher un ampli sans électricité, en fait, c'est galère.
Non mais attends. Tu sais quoi ? On pourrait rêver un concert préhistorique. Attends, t'imagines le truc ? On se met dans la peau de l'Homo musicus paléolithicus. Homo musicus paléolithicus. Attends, on prend les instruments dont ils se servaient à l'époque et on invite des potes et tout. Enfin, tu vois quoi, le truc ?
Oui, je vois. Ouais. Et puis, je suis d'accord avec toi, c'est énorme comme nom de groupe. Homo musicus paléolithicus, ça sonne trop bien. Bon, d'accord, je suis partante. Je vois même bien qui on pourrait inviter. Tu connais les artistes Ayora et Calzadilla ?
Non, pas vraiment. Ils sont de la partie ?
Il faut absolument que je te les présente.
Écoute. Je te pose la question parce que jouer de la musique du paléolithique, enfin, c'est pas donné au premier mammouth venu. Tu vois ce que je veux dire ?
Je vois. Bah, tu ne vas pas être déçu, ce sont deux artistes plasticiens portoricains.
Attends, portoricains ? Ils ont des grottes là-bas ?
Oui.
Non, parce que les grottes dont je te parle, moi, se trouvent dans le sud de la France, le nord de l'Espagne et près de Ulm. Tu vois, Ulm, en Allemagne. Mmh. Bon, c'est à Porto Rico, ils ont des grottes, alors là, non, c'est énorme. Bon, vas-y, raconte-moi. L'idée me met déjà en transe. Écoute, attends, pour me calmer, tu sais quoi ? Je vais tailler des trous dans ma flûte d'os de cubitus de vautour.
Alors, il y a bien des grottes, les grottes de Camico. Mais les grottes que fréquentent ces deux artistes, ce sont plutôt les galeries d'art, la Biennale de Venise, par exemple, ou encore le musée d'art de Philadelphie. Et puis, le muséum d'histoire naturelle du Jardin des Plantes à Paris. Tu sais, c'est là que je les ai connus pour le festival d'automne 2013. J'étais impressionnée, ils avaient exposé un énorme hippopotame. Enfin, voilà, je me suis intéressée à leur travail et c'est passionnant. Il y a trois de leurs vidéos dont je voudrais te parler. Apotome 3, créé pour 2013, et Raptors Rapture, créé en 2012.
Attends, mais ils jouent de la musique ?
Oui, de la vraie musique du paléolithique. Et ça interroge beaucoup la fonction de la musique en général, d'ailleurs. Et, comment la musique est née, en quoi elle représente l'humanité, le langage, tout ça. Mmh. Tiens, pour commencer, comme tu me parlais de flûte, Raptor Rapture, c'est un court-métrage qui filme Bernadette Kiefer, flûtiste spécialiste des instruments préhistoriques. Elle joue pour un vautour fauve. C'est une des plus anciennes créatures sur Terre, actuellement en voie d'extinction. Et elle joue pour lui une flûte découverte dans la grotte de Hohlefels en Allemagne en 2009 par une équipe d'archéologues allemands.
Attends, mais carrément ? Attends, mais c'est une flûte la plus vieille connue à ce jour. Elle a plus de 40 000 ans. On a retrouvé une douzaine de fragments et on l'a reconstituée. Elle mesure 22 cm et elle a 5 trous. Non mais attends, 5 trous ? T'en fais des notes avec 5 trous. Ok, je suis partant pour les inviter à notre concert. Mais tu sais, on peut aussi inviter des amis non musiciens. Enfin, des amis qui ont le sens du rythme. On leur donne des cailloux que l'on frappe l'un contre l'autre. Hein ? Ou alors tu sais quoi ? On peut fabriquer aussi des racleurs avec des os de renne dans lesquels on a taillé des encoches. On peut aussi simplement frapper dans les mains. Écoute, il existe un truc qui était mais super à la mode à l'époque et que l'on continue d'utiliser encore dans certains coins du globe. Des rhombes. Alors, ce sont de fines lames de pierre, d'os, d'ivoire ou de bois. Alors, elles sont symétriques, en forme de feuilles, autour desquelles on accroche une longue cordelette. Quand on fait tourner la rhombe au-dessus de nos têtes, elle produit un rhombissement puissant. Ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre des bouts de bois et puis... Attends, je me calme parce que alors là, je crois qu'on a un superbe orchestre. Alors, t'en penses quoi ?
Oui, c'est pas mal.
C'est pas mal, c'est génial.
Mais il manque quelques instruments mélodiques, comme un violoncelle ou une voix, par exemple, parce que le rythme, c'est bien dans un premier temps. C'est les fondamentaux de la musique et du langage. Barthes, tu sais, ce sémiologue qui a écrit le degré zéro de l'écriture, et dans un article intitulé « Écoute », il dit que bien avant la figuration pariétale, La reproduction intentionnelle du rythme distingue peut-être fondamentalement l'homme de l'animal. Par le rythme aussi, l'écoute cesse d'être pure surveillance pour devenir création. Mmh. Bon, donc d'accord, le rythme c'est bien. Mais Ayora et Calzadilla, dont je te parlais tout à l'heure, ils vont encore plus loin. Ils ont pris la plus célèbre représentation de la femme au Paléolithique.
Oui, oui, bah Lucie, quoi.
Mais non, la Vénus de Lespugue. C'est une belle nana avec une très belle grosse paire de fesses. Il y en a même qui disent que c'est la première de toutes les créations artistiques, parce que contrairement aux peintures d'animaux, elle a des formes vraiment mais disproportionnées.
Ouais.
Alors ils lui ont pris ses mensurations, hop là, pas gêné. Puis ils ont demandé à David Lang, un compositeur, de se servir de ses rapports pour composer une musique. Parce que figure-toi que les proportions de la Vénus correspondent étroitement à la gamme diatonique des Ariens vériques, soit le mode dorien découvert par Pythagore. C'est complètement génial. Ce compositeur, il a choisi d'écrire pour le violoncelle parce que c'est le descendant direct du monocorde que Pythagore a utilisé pour affiner sa théorie sur les gammes musicales.
Bon, ok, 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 d'accord. Mais enfin, rentrer dans une grotte avec un violoncelle, eh ben, c'est pas commode. Excuse-moi. La voix dont tu parlais tout à l'heure, eh ben, c'est plus simple. On l'a déjà avec nous.
Oui, d'accord, Idir. Mais est-ce que toi, tu as une voix préhistorique?
Ouais, d'accord, ça fait un peu Chewbacca. Okay, d'accord, bon, je laisse tomber.
Ouais, d'accord. Bon, alors Ayora et Calzadilla.
Encore eux?
Et oui, ils ont d'accord. trouvé une voix d'outre-tombe. C'est celle de Tim Storms. C'est l'homme qui a la voix la plus grave du monde. Il arrive à chanter des notes qui descendent à des fréquences proches de 0,589 Hz. Et seuls certains animaux peuvent l'entendre, les éléphants par exemple.
Non, attends, tu veux dire les mammouths?
Non, en fait, Tim Storms a dû chanter parmi les squelettes du Muséum d'Histoire Naturelle. Il n'y avait pas vraiment de mammouths, mais plutôt deux éléphants, Hans et Parky, qui s'étaient des otages des guerres napoléoniennes. C'est une sorte de geste diplomatique des artistes envers les éléphants pour se faire pardonner de leur captivité et de leur esclavage. Alors Ayora et Calzadilla veulent montrer que la musique est une sorte de proto-langage, un métalangage entre les espèces, non symbolique et affectif, un mode de communication biologique et évolutionniste.
Ouais, bon d'accord, ok, proto-langage, métalangage, ouais, symbolique. Ok, écoute-moi tout ce charabia, écoute, peu importe. Moi je te dis que notre idée va faire un tabac. On va non seulement communiquer entre nous, mais aussi à travers le temps, avec Cro-Magnon et Néandertal, mais aussi avec tout le règne animal. Non mais c'est trop fort. Bon, ah oui, tiens, j'oubliais. Tu sais que sur place, il y a des concrétions qui ressemblent à des orgues.
Oui, les stalagmites.
Mites, ouais.
J'arrive jamais à me souvenir lesquels c'est. Les mites montent et les tites tombent.
Eh bien, quand on les frappe avec la paume de la main, certains font des sons incroyables, comme des xylophones. Mais bon, moi, je te parlais plutôt des formations de calcite qui ressemblent, tu sais, à des draperies ou des colonnes. Ce sont des lithophones naturels qui ont des sons proches du marimba.
Waouh ! Des pierres qui font du bruit ?
Eh ouais.
Ça roule grave, mon pote.
Ouais, ça roule, ma poule.
Ça a pierre qui roule.
C'est parti, allez, pour notre concert hommage à cette super émission.
C'était une belle randonnée à travers la préhistoire. Merci beaucoup Marie et Idir pour ces bons moments. On comprend aussi du coup que la musique, c'est quand même quelque chose de très social, les sons également. J'avais posé la question justement à Sylvain Perrault.
autour de la composition donc, sociale des sons, autour des langues et également autour de l'alphabet. Je vous laisse écouter quelque chose autour de l'architecture acoustique et le son comme manière de rassembler ou de s'opposer.
Alors, les Grecs étaient très attachés à l'acoustique des bâtiments. On le sait par les bâtiments eux-mêmes, j'y reviendrai tout de suite, mais il faut d'abord savoir que les Grecs eux-mêmes avaient déjà réfléchi à la nature physique du son. Qu'est-ce que le son ? Quel est le rapport entre le bruit fait par le choc de deux éléments ? Et ensuite, quel est le rôle de l'air dans tout ça ? Est-ce qu'il participe de la production du son ? Est-ce qu'il participe de sa diffusion ? Aristoxène de Tarente est un des premiers penseurs de la théorie physique du son, c'est un disciple d'Aristote. Et on voit bien à partir de là que les Grecs ont une approche théorique de la physique du son et une approche empirique. Dans les bâtiments donc, qui ont précédé Aristoxène, puisqu'on est au IVe siècle, donc les théâtres sont construits à partir du Ve siècle, on voit bien que les procédures utilisées d'architecture visent à rendre de la qualité du son meilleure. Et c'est vrai, donc des édifices évidemment de spectacle, et notamment pour les Grecs le théâtre, puisque c'est un lieu spécifiquement destiné à des représentations de type sonore, évidemment, au premier plan musical et récitatif, pour ce qui est de la pièce en elle-même. Mais où on voit que ces questions de son les ont beaucoup préoccupés, c'est que certains édifices qui ne sont pas des édifices de spectacle ont des propriétés sonores. Par exemple, quand on rentre dans les fortifications de Mycène, la porte d'Arcadie, on voit à quel point la tour circulaire qui est préservée a une réverbération des sons assez exceptionnelle. Ou peut-être un exemple encore plus probant, puisqu'il était cité par les anciens eux-mêmes, c'est le portique d'Écho à Olympie, où ce portique était donc nommé du nom d'Écho, la déesse de l'écho, mais aussi ce portique était appelé le portique aux sept voix, ce qui était, selon la manière dont il comprenait le phénomène acoustique à l'époque, le nombre de fois où la voix se répercutait de mur en mur. Alors, les manifestations théâtrales des Grecs, une manifestation que nous qualifierions aujourd'hui de culturelle, sont de toute façon intégrées à la religion de la cité, et par là, à la politique de la cité, il est évident que les recherches acoustiques menées sur les édifices sonores ont des répercussions sur la vie politique, puisque d'ailleurs, les mêmes édifices, les théâtres, peuvent être utilisés pour réunir l'assemblée du peuple dans la Grèce antique. Et donc, évidemment, les recherches qui sont faites pour que la voix d'un acteur porte le mieux possible vont permettre aussi à un orateur de se faire mieux entendre. Évidemment, les bruits de l'assemblée du théâtre sont aussi les bruits de l'assemblée politique, avec ses cris, ses sifflements, quand on siffle un acteur ou quand on siffle un orateur. Donc il y a effectivement une communauté sonore dans ces deux activités importantes de la cité, mais qui se rejoignent puisque de toute façon, fondamentalement, le théâtre est une manière aussi de réunir la cité, de la montrer en spectacle à elle-même.
Est-il du son dans les villes à d'autres périodes ? On vous propose un petit voyage vers la période médiévale. Laure Leroux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorante en archéologie médiévale à l'Université de Caen. Vous avez fait paraître, il y a quelques années, aux éditions Tournai Art et Histoire, un ouvrage qui s'intitule « Cloches et sociétés médiévales, les sonneries de Tournai au Moyen-Âge ». Et la particularité de votre approche, c'est que vous avez pu mener, pour la première fois, une étude globale des sonneries de Tournai. Alors dites-nous, combien de cloches avez-vous compté à Tournai ?
À la fin du Moyen-Âge, nous sommes à 70 cloches religieuses pour la ville de Tournai, qu'il faut remettre dans son contexte, puisque ce sont 70 cloches qui sonnent sur un espace de 47 hectares. Et encore, ce n'est qu'un prélude, puisque pour la période moderne, le nombre de cloches va aller en grandissant.
Qu'est-ce
est-ce qu'elles sonnaient ces cloches exactement?
La fonction des cloches, à partir de leur introduction dans l'Occident médiéval au VIe siècle, elle a d'abord pour objet la sonnerie des heures canoniales, qui sont au nombre de 8. En fait, ce ne sont pas des cloches qui vont donner le temps, mais qui vont structurer la journée. Le nom de la cloche lui-même, en latin, c'est le signum, c'est-à-dire le signal. Et c'est le signal de la prière. Il va y avoir, par ailleurs, dans ces 8 sonneries, une insistance particulière sur les sonneries du lever et du coucher du soleil.
Et à partir de quand est-ce que les cloches commencent à sonner l'heure?
Le temps universel tel que nous le connaissons, il est finalement assez tardif, puisqu'il suppose l'introduction du mécanisme régulier d'une horloge. Avec l'horloge, l'heure devient individuelle, c'est-à-dire que chacun devient maître de son temps.
Vous parliez tout à l'heure de 70 cloches en tout et pour tout dans la ville de Tournai. Ça fait qu'on a un bruit qui n'est plus présent dans nos villes actuelles. Et donc, est-ce qu'on peut penser que la sensibilité au son était différente à la fin du Moyen-Âge en ville?
Alors, avec 70 cloches et autant de sonneries quotidiennes, on peut se demander même s'ils avaient une sensibilité sonore encore. Je pense que oui, mais elle est effectivement différente de la nôtre. C'est-à-dire que vous avez tellement de sonneries que ça finit par être une sorte de bourdonnement continu en arrière-plan.
Donc on peut presque dire qu'avec tout ceci, que le silence n'existait pas dans la ville du Moyen-Âge.
Le silence n'existe pas, et le silence surtout est visiblement terrifiant pour eux. La seule occasion liturgique du silence, ce sont les 3 jours de la Passion du Christ, où en fait les cloches se taisent et ne reviendront qu'au moment de sa résurrection. L'autre occasion où les cloches s'arrêtent, c'est la guerre, évidemment, pour permettre aux guetteurs d'entendre les cloches d'alerte. Les cloches aussi s'arrêtent lors des épisodes de peste, puisque la sonnerie continuelle en fait des cérémonies funèbres devait être absolument terrifiante. Donc les autorités communales décident de les faire cesser un moment pour ne pas engendrer des moments de panique.
Tout ce bruit doit forcément avoir un impact sur les activités que l'on peut mener au quotidien. On peut penser par exemple au fait de jouer de la musique, composer de la musique. Comment est-ce qu'on fait pour composer ou jouer de la musique dans un brouhaha permanent?
Tout à fait, il faudrait en fait mettre un musicien dans cette situation pour pouvoir observer ses réactions et savoir s'il devient fou ou pas. C'était une remarque d'une amie musicienne qui disait qu'en fait les plus grandes symphonies avaient été écrites dans ce son perpétuel de cloches en arrière-plan. Et on peut se demander si parfois ils ne l'intégraient pas eux-mêmes dans leur composition.
Les cloches, qui est-ce qui décide de les sonner? Est-ce qu'elles appartiennent à quelqu'un? Est-ce qu'elles appartiennent à tout le monde? Comment est-ce que ça se passe?
Alors, la cloche, par son utilisation première, en fait, a toujours une valeur de communauté. D'abord pour régler la vie monastique, donc l'appel à la prière, mais aussi l'appel au repas, par exemple, ou au coucher. Puis ensuite, elles vont être diffusées pour l'encadrement paroissial. Au XIIe siècle, Tournai est une des premières villes à recevoir le droit de cloche, c'est-à-dire qu'il dispose d'une cloche communale, et ce faisant, en fait, il dispose d'un droit d'autorité sur les hommes, puisqu'il ne faut jamais oublier qu'une communauté, c'est aussi la coercition. Et de fait, personne ne peut ignorer le signal de la cloche. Donc elle est sonnée pour les grands rassemblements communaux, mais également pour les décisions de justice. Donc la cloche va incarner ce pouvoir, et à Tournai, on dit ainsi que les paroles prononcées à l'encontre du roi qui avait donné la cloche sont des paroles malsonnantes. L'autre façon de signifier ce pouvoir, c'est de confisquer la cloche, puisque la communauté perd ainsi sa voix publique.
Merci Laure Leroux.
Thank you.
Eh ben oui, c'était ACDC avec Hell's Bells. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Alors le son structure, le son rassemble, hein, on l'a bien compris. Le son peut être aussi typique donc de la ville, on vient de le voir. Est-ce que le son peut être typique aussi des espaces ruraux? Aris Procopiou, est-ce que à la proto-histoire on peut parler d'espaces urbains déjà, et est-ce qu'on peut parler d'une différence entre le son qu'il y a dans les espaces urbains et les espaces ruraux?
Comme je l'ai mentionné brièvement précédemment, il y a deux mondes qui se côtoient, ils ne sont pas distincts comme actuellement. Mm-hmm. La ville est près de la campagne, on passe de l'un à l'autre, les artisans sont mobiles, ils appliquent l'activité artisanale, mais en même temps, ils sont des paysans. Donc, il y a un va-et-vient entre la ville, le village, la campagne, mm-hmm. tout s'entremêle, les bruits aussi. Les odeurs et...
Est-ce qu'il y a des zones d'espace vide au niveau du son? Est-ce qu'on peut le savoir, ce genre de choses? Des zones où il y a beaucoup moins de son qu'ailleurs?
Sûrement, les zones inhabitées, il y a plus le son de la nature, mais ces zones sont parcourues. Et quand les hommes les parcourent, peut-être ils chantent. Là, c'est vrai qu'on n'a pas les données, mais moi, j'imagine, en allant vers les champs, sûrement ils chantent.
Exactement.
Peut-être ils se chamaillent, mais...
Tout est possible, on ne sait pas. Orchestre sur la route. Bon, il est temps pour moi de vous remercier. Merci beaucoup de votre présence avec nous.
Merci à vous.
Merci à Marie, merci à Edir, merci Léa, merci Lydia. Merci aux collégiens qui sont toujours là. Ils ne font pas de bruit, mais on les entend. Vous pouvez dire merci.
Merci.
Bon, il est temps donc aussi de dire que demain jusqu'à samedi se poursuit la table ronde organisée par l'IFAO, l'École française d'Athènes et l'École française de Rome sur la fabrique du sonore. Ça se passe à l'IRCAM et au Collège de France. Et Sylvain Perrault y sera. J'entends des bruits de cailloux. Je crois qu'on est en train de se faire envahir. Juste l'exposition au musée d'archéologie de l'Oise à Vandeuil-Capli commence le 6 février. Elle s'appelle « Je suis archéologue » et on parlera de dessin humoristique et d'archéologie. Voilà. Merci à tous. À bientôt. Les petits cailloux se rapprochent. À bientôt.